Le maréchal de Lost, Sir Thomas Woke, était désespéré. Le comte de Kent regrettait presque l'aréole. Au moins là-bas, le temps était beau. Henry Torscoll avait des rhumatismes dans la nuque. Mortimer s'irritait et se lassait de courir sans cesse de l'armée au Yorkshire, où se trouvaient la reine et les services du gouvernement. Le désespoir qui engendre les querelles commençait à s'installer dans les troupes. On parlait de trahison. Un jour, tandis que les chefs de bannière discutaient très haut de ce que l'on n'avait pas fait, de ce que l'on aurait dû faire, le jeune roi Édouard III réunit quelques écuyers d'environ son âge et promit la chevalerie ainsi qu'une terre d'un revenu de 100 livres à qui découvrirait l'armée d'Écosse. Une vingtaine de garçons, entre 14 et 18 ans, se mirent à battre la campagne. Le premier qui revint se nommait Thomas de Rockersby. Tout haletant et épuisé, il s'écria « Sire Édouard, les Escots sont à 4 lieues de nous, dans une montagne où ils se tiennent depuis une semaine sans plus savoir où vous êtes, que vous ne savez où ils sont. » Aussitôt, le jeune Édouard fit sonner les trompes, rassembler l'armée dans une terre qu'on appelait la Lande Blanche, et commanda de courir aux Écossais. Les grands tournoyeurs en étaient tout éberlués. Mais le bruit que faisait cette énorme ferraille, avançant par les montagnes, parvint de loin aux hommes de Robert Bruce. Les chevaliers d'Angleterre et de Hainaut, arrivant sur une crête, s'apprêtaient à dévaler l'autre versant lorsqu'ils aperçurent soudain toute l'armée écossaise, à pied et rangée en bataille, les flèches déjà encochées dans la corde des arcs. On se regarda de loin sans oser s'affronter, car le lieu était mal choisi pour lancer les chevaux. On se regarda pendant 22 jours. Comme les Écossais ne semblaient pas vouloir bouger d'une position qui leur était si favorable, comme les chevaliers ne voulaient pas livrer combat dans un terrain où ils ne pouvaient pas se déployer, on demeura donc de part et d'autre de la crête, chaque adversaire attendant que l'autre voulût se déplacer. On se contentait d'escarmoucher la nuit, généralement, en laissant ces petites rencontres à la piétaille. Le plus haut fait de cette étrange guerre, que se livraient un octogénaire lépreux et un roi de 15 ans, fut accompli par l'Écossais Jacques de Douglas, qui, avec 200 cavaliers de son clan, fondit par une nuit de lune sur le camp anglais, renversa ce qui lui barrait passage en criant « Douglas, Douglas !» s'en vint couper 3 cordes à la tente du roi et tourna bride. De cette nuit-là, les chevaliers anglais dormirent dans leur armure. Et puis, un matin, avant l'aurore, on captura 2 trompeurs de l'armée d'Écosse, 2 guetteurs qui vraiment semblaient vouloir qu'on les prît et qui amenaient devant le roi d'Angleterre lui dire « Sire, que cherchez-vous ici ? Nos escottes sont retournées dans les montagnes, et Sir Robert notre roi nous a dit de vous en avertir, et aussi qu'il ne vous combattrait plus pour cette année, à moins que vous ne le veniez poursuivre. » Les Anglais s'avancèrent, prudents, craignant un piège, et soudain furent devant 400 marmites et chaudrons de campement pendus en ligne, que les Écossais avaient laissés là pour ne point s'alourdir, ni produire de bruit dans leur retraite. Également découvrit, formant un énorme tas, 5 000 vieux souliers de cuir avec le poil dessus. Les Écossais avaient changé de chaussures avant de partir. Il ne restait, comme créature vivante dans ce camp, que 5 prisonniers anglais, tous nus, liés à des pieux, et dont les jambes avaient été brisées à coups de bâton. Poursuivre les Écossais dans leurs montagnes, à travers ce pays difficile, hostile, où l'armée, fort fatiguée déjà, aurait à mener une guerre d'embuscade pour laquelle elle n'était pas entraînée, apparaissait comme une pure folie. La campagne fut déclarée terminée, on revint à York. Et Lost fut dissous. Messire Jean de Hainaut fit le compte de ses chevaux morts ou hors d'usage et présenta un mémoire de 14 000 livres. Le jeune roi Édouard n'avait pas autant d'argent disponible dans son trésor et devait aussi payer les soldes de ses propres troupes. Alors, messire Jean de Hainaut, ayant grand geste comme de coutume, se porta garant auprès de ses chevaliers de toutes les sommes qui leur étaient dues par son futur neveu. Au cours de l'été, Roger Mortimer, qui n'avait aucun intérêt dans le nord du royaume, bâcla un traité de paix. Édouard III renonçait à toute suzeraineté sur l'Écosse et reconnaissait Robert Bruce comme roi de ce pays, ce qu'Édouard II, tout le long de son règne, n'avait jamais accepté. En outre, David Bruce, fils de Robert, épousait Jeanne d'Angleterre, seconde fille de la reine Isabelle. Était-ce bien la peine pour un tel résultat d'avoir déchu de ses pouvoirs l'ancien roi qui vivait reclus à Berkeley ?